premier sur l'info, le journal présenté par Cédric Vallax.
Bonjour Cédric.
Bonjour Moretto, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, l'inquiétude des patrons quant à l'avenir de la défiscalisation. Après la présentation hier en métropole du projet de loi de finances 2016 par la ministre des Outre-mer, dans son contenu, l'article 43 parle d'extinction de certains régimes d'aide à l'investissement, ce qui n'est pas fait pour rassurer les chefs d'entreprise qui ont pourtant multiplié les démarches ces derniers mois pour conserver le dispositif. Vous les entendrez. Et puisqu'on parle défiscalisation, nous reviendrons sur la plus grosse affaire de fraude en la matière aux Fénois qui se retrouve à la barre du 12 au 16 octobre prochain. Le préjudice pour l'État est établi à près de 3 milliards de francs dans ce dossier d'escroquerie au dispositif Girardin. Nous parlerons aussi politique avec Lionel Beffre et Jacques Hydrolli qui ne sont décidément pas en phase sur la diffusion de la commune de Itia où le commissaire était en visite hier. Et nous terminerons sur les célébrations en l'honneur de l'arrivée des premiers Chinois en Polynésie. C'était il y a 151 ans. Des célébrations qui se feront en janvier prochain.
Et on parle économie pour commencer avec les patrons qui s'inquiètent de l'avenir de la défiscalisation.
Et pour faire entendre leur inquiétude, les présidents du MEDEF, de la CGPME et de la CCISM ont organisé hier après-midi une conférence de presse commune. Les patrons inquiets sur l'avenir de la défiscalisation après la présentation hier en métropole du projet de loi de finances 2016 par la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin. Dans son contenu, l'article 43 parle d'extinction de certains régimes d'aide à l'investissement, ce qui n'est pas fait pour rassurer Olivier Cressman. Le président du MEDEF Polynésie est au micro de Valentine Bluet.
Et beaucoup plus inquiétant, c'est une phrase dans ce texte qui laisse parler d'extinction des projets d'aide fiscale sur Outre-mer. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant parce qu'on nous a toujours parlé de réfléchir à autre chose pour remplacer. Là, on parle d'extinction, mais on n'a rien du tout en face.
Des patrons qui se disent étonnés de voir le dispositif de défiscalisation qui devait prendre fin en 2017 être prolongé jusqu'à la fin 2018, mais sans autre forme d'avenir. Étonnés puisqu'à de nombreuses reprises ces derniers mois, les représentants des entreprises s'étaient déplacés à Paris. Paris où ils ont exprimé leur volonté de voir proroger la défiscalisation jusqu'en 2025, tout en réfléchissant à un autre dispositif.
Nous avons rencontré des gens à Matignon, nous avons rencontré les gens à l'Élysée. Le message était très clair, démonstration très évidente. Nous sommes sur des territoires petits qui ont besoin d'un soutien et la défiscalisation est un outil de garantie pour les banques de bonne fin financière des projets. Visiblement, on ne parle pas la même chose et pourtant, l'économie et le social dans notre région doivent être aidés, doivent être soutenus. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi l'État français reste tellement en retrait. C'est très simple, on proroge le dispositif jusqu'à 2025. C'est une décision du président de la République et c'est la démarche que nous attendons de la part de politiques locaux de porter cette voix auprès du président, de simplement proroger ce dispositif. Il n'y a que ça à faire. On réfléchit en même temps et on proroge.
Une des propositions du patronat est de créer une union sacrée avec les collectivités de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie pour mettre en place un fonds pacifique, un fonds qui pourrait remplacer la défiscalisation. Ils en appellent au gouvernement local pour faire avancer ce dossier. En tout cas, pour ces chefs d'entreprise, une chose est sûre, il faut à tout prix préserver cette aide qui est un outil de rattrapage économique. Les représentants du patronat qui s'interrogent sur l'attitude du gouvernement central allant même jusqu'à se demander s'il ne s'agissait pas d'un désengagement de l'État.
Et puisqu'on parle défiscalisation, la plus grosse affaire de fraude en la matière aux Fénois se retrouve à la barre.
Comme Radion l'a annoncé il y a quelques semaines, le procès de l'affaire Sophie Pack se déroulera sur 5 jours du 12 au 16 octobre prochain. Le tribunal correctionnel de Papeete vient d'établir les rôles d'audience. 12 personnes sont attendues sur le banc des prévenus, à commencer par William Bernier, l'ancien patron du cabinet de défiscalisation Sophie Pack, et la principale apporteur d'affaires Yolande Wonglam. Également prévenu dans cette affaire, le conseiller au CESC Rubel Amaru, mais aussi l'ancien perliculteur et président du collectif Teta Uno Terrono, Franck Terramatei. Dans cette affaire, le préjudice pour l'État est établi à près de 3 milliards de francs dans ce dossier d'escroquerie au dispositif Girardin. Un dossier où le juge d'instruction a dénombré entre 250 et 300 faux montages de défiscalisation établis sur la base de fausses factures pour des plantations de vanille, des fermes perlières ou des équipements et machines totalement fictives ou déjà défiscalisées.
Et on reste dans les nombres avec des chiffres d'affaires records dans le BTP.
L'Institut de la Statistique en Polynésie vient en effet de publier les chiffres de l'activité du bâtiment et des travaux publics pour le deuxième trimestre 2015. Le chiffre d'affaires est à son plus haut niveau depuis 5 ans et s'établit à 10,4 milliards de francs en progression de 8,3% par rapport au premier trimestre 2014. Paradoxalement, l'emploi évolue toujours à la baisse avec une diminution des effectifs de 5,5%. Cependant, en février et mars 2015, les effectifs ont légèrement progressé avec 200 emplois salariés supplémentaires par rapport à décembre 2014. Sachez également que 70 entreprises ont été créées dans le BTP. Sur cette période, un nombre en diminution de 38% par rapport au premier trimestre 2015.
Et on parle politique maintenant avec Lionel Beffre et Jacky Drolet qui ne sont décidément pas en phase sur la diffusion de Hitia.
Le commissaire était en visite hier matin dans la commune de Hitia-Hotella. L'occasion pour les Tavanas de parler de la potabilisation de l'eau, de la caserne des pompiers, du plan d'évacuation en cas de rupture de barrage. L'occasion surtout pour Jacky Drolet d'aborder le sujet sensible de la diffusion de la commune. Je vous rappelle qu'en juillet dernier, les conseillers municipaux de Hitia-Hotella ont voté une nouvelle délibération un an après la première. Délibération renouvelant leur souhait de défusionner ces quatre communes associées de Papeno, Tiarei, Mahaena et Hitia en quatre communes de plein exercice. Pour Jacky Drolet, l'argumentaire est donc tout trouvé.
Pour ce qui concerne Hitia, 60% de la population a dit oui. Maintenant, les élus qui ont adopté les deux délibérations de juillet 2014 et août 2015 l'ont fait, me semble-t-il, en responsabilité. Maintenant, c'est à eux de voir avec leurs propres électeurs où ils se situent par rapport à ce sujet. Nous avons tous raison d'attendre le travail qui sera fait sur le terrain pour savoir quel type de répartition financière il y aura, quel type d'investissement, comment les choses se poseront. Nous avons posé un principe, à savoir que cette diffusion, quand elle aura lieu, devra se faire en équilibre sur les quatre nouvelles communes créées. Par exemple, si à l'heure actuelle, une des communes bénéficie d'un financement important, notamment Papeno avec les barrages et les investissements, qu'on trouve l'astuce pour qu'un financement réparti sur les quatre nouvelles communes se fasse à partir de ce que nous avons hébergé chez nous, et notamment des barrages hydroélectriques.
Le commissaire parlait de seuil critique concernant les communes.
C'est un peu bizarre. L'État qui crée des communes avec des tailles critiques encore plus faibles que celles que nous pouvons avoir ici à Hitia-Hotella, prend justement cet argument pour dire qu'on ne peut pas créer une commune. Donc je lui ai gentiment expliqué qu'il s'agissait d'une turpitude, ce qu'il n'a peut-être pas admis.
On le sait, Lionel Beffre n'est pas favorable à cette diffusion. Il le disait à notre micro lors du dernier congrès des maires. Mais la procédure est en marche et elle devrait encore prendre un an pour le représentant de l'État.
Moi, ma crainte, elle est que ça ne fragilise une commune qui est déjà fragilisée par des difficultés financières. Voilà. Donc, si vous voulez... C'est un argument fort qui ne peut pas être un argument de tous les temps, parce que c'est aujourd'hui que la commune a des difficultés, mais en même temps, le redressement, il ne va pas se faire en deux mois.
Hein. Mais en tout cas, vous n'allez pas faire traîner la mise en place de la commission.
Aucune raison de faire traîner. Simplement, j'ai indiqué aussi qu'il fallait qu'on soit à chaque étape bien bordé juridiquement, parce que c'est une procédure qui est lourde, mais qui peut susciter des recours. Et moi, je veux qu'on soit certain à chaque étape d'être dans le droit. Donc, il n'y a pas de raison de faire traîner. Mais en même temps, il faut qu'on soit rigoureux sur l'avancée de la procédure.
Mais ça peut prendre combien de temps jusqu'à ce que ce dossier arrive en Conseil des ministres et au niveau de l'Assemblée de la Polynésie ?
Ça peut prendre au moins un an. Parce qu'il faut quand même, encore une fois, que chacun se prononce. Le Conseil des ministres, moi, je ne fixe pas l'ordre du jour. Si on était amené à consulter l'Assemblée de Polynésie, je ne fixe pas l'ordre du jour. Je ne suis pas non plus responsable des décisions qui sont prises. Donc voilà, il y a quand même aujourd'hui une série d'incertitudes. Une série d'inconnus qu'il faut intégrer au raisonnement. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, voilà, dans trois mois c'est fini, comme je ne peux pas vous dire que ce sera dans un an. Parce que, encore une fois, ensuite, dès lors qu'on consulte les uns ou les autres, chacun est maître de ses propres procédures.
Voilà, Jacky Drolet et Lionel Beffre étaient au micro de Vaïté Oural-Ipambrin.
Et un dernier chiffre pour terminer, 80% des Polynésiens auraient des origines chinoises.
C'est ce qu'affirme Roland Sam, le président de l'association des descendants de Hatimaono Varuatupuna Taina, qui organisera deux jours de célébration des 151 ans de l'arrivée des premiers Chinois en Polynésie. C'était en 1865, un événement qui sera célébré les 30 et 31 janvier prochains. Un événement qui concerne toute la Polynésie, puisqu'au bout de 6 mois de recherche généalogique sur les 1000 premiers Chinois, le constat est simple. La proportion de leurs descendants dans notre société est très importante. En effet, Roland Sam, affirme que 80% de la population polynésienne possède des origines chinoises. Il avoue même avoir eu quelques surprises au sujet de certains descendants. Presque une quinzaine de Miss Tahiti ont des origines chinoises, selon lui. On retrouve également des noms connus du paysage local. Jean-Marius Rapoto, Teva Rofritsch, Maka Foster, Frédéric Rivetta, Coco Rutaota. Pour Roland Sam, ces célébrations de l'arrivée des premiers Chinois sont donc un moyen de créer des liens entre les communautés. Il est au micro de Valentine Bluet.
De rétablir un peu le lien ou de mettre en place un lien entre les différentes communautés, quoi. Comme sur près d'un siècle et demi, beaucoup de Polynésiens ayant des origines chinoises, ils avaient un peu honte de leurs origines chinoises. Donc là, c'est l'occasion de mettre en avant, de ne pas avoir honte de ses origines, quoi, et d'en être fier.
Et près de 8000 personnes sont donc attendues pour la célébration qui se fera en deux temps. Le samedi 30 janvier 2016, une reconstitution aura lieu sur le site domanial de Hatima Ono. Le dimanche 31 janvier sera plus festif et moderne avec Makao Foster en maître de cérémonie, comme l'explique Roland Sam.
Ben là, il y aura une commémoration historique. Donc, on a retrouvé les descendants de 342 Chinois et on va les habiller en tenue historique. Et donc, on va reconstituer leur arrivée en tenue d'époque. Et après, il y aura un accueil traditionnel avec des marées, des oreos et des danses polynésiennes. Avec un concert gratuit dans l'après-midi. Le lendemain, le dimanche, il y a un tournoi de golf qu'on a appelé le tournoi de la Cannes. Plus une élection des plus beaux représentants de la communauté polynésienne. Aussi le dimanche, il y a aussi un déjeuner dansant avec près de 300 tables.
Retrouvez l'info en continu
Radio 1.
Sur radio1.pf.